Je veux pas. Médiation avec le législateur, Moïse. Ça, c'est très net. Il y a un lien entre Moïse et Jésus. Il y a une opposition. C'est une médiation tout autre. Et la médiation avec Moïse va impliquer le sacerdoce, Aaron. Et la médiation avec Moïse va impliquer les juges. C'est encore autre chose. Mais tout ça, c'est la médiation de Moïse. C'est la médiation à l'égard du législateur. Puis vous avez ensuite la médiation des prophètes. Et la médiation des rois. Je crois que c'est assez facile à comprendre qu'il y a ces diverses médiations qui dans l'Ancien Testament, parce que c'est l'aspect d'imperfection, alors c'est toujours important. Ce qui est imparfait pour nous, c'est de l'ordre de la disposition, et donc c'est beaucoup plus explicite, et c'est plus facile à comprendre. C'est que la fécondité divine soit liée à la fécondité selon la chair et le sang, pour nous, c'est plus facile à comprendre. C'est quelque chose qui est important à saisir, et de voir que lorsqu'il s'agit du législateur, la famille éclate. Ce n'est plus la famille et la tribu, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est né au moment du législateur, parce que le législateur, c'est celui qui donne la loi. Et dès qu'il y a la loi, il y a un peuple. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de peuple. Et donc, il y a le point de vue du peuple. Et alors, toute la médiation là, qui joue un rôle très très différent, ce n'est plus une médiation paternelle, c'est autre chose. Vous voyez, la bénédiction est moins immédiate. Et Moïse est envoyé auprès du Pharaon. Et Moïse est envoyé au peuple d'Israël. Vous voyez que la mission est beaucoup plus délicate quand il s'agit d'Abraham. Est-ce qu'Abraham est envoyé auprès d'Isaac? Ceux qui s'intéressent à la mission. Hein. Est-ce que vous pouvez dire qu'Abraham est envoyé? Non, il reçoit la bénédiction. Et Abraham, Isaac reçoit la bénédiction du Père. Et Isaac béni, est-ce que Isaac est envoyé auprès de Jacob? Sûrement pas. Si c'était une mission, ce serait complètement raté. Parce qu'il bénit celui qui ne veut pas bénir. Alors si au point de vue de la mission, ça ne va pas ça. Est-ce qu'il est envoyé? Non, c'est un lien de paternité. C'est curieux. Ça, je crois que c'est important de saisir ce point de vue-là. Donc, la mission ne dit pas tout. Ah. Ça va être ça très important. Il y a la paternité qui est avant la mission, qui est fondamentale. J'essaie de comprendre, selon l'économie, hein. L'économie divine, vous allez me dire, c'est l'ordre de l'imperfection. Oui, nous allons tout revoir dans l'ordre de perfection. Mais j'essaie de comprendre et j'essaie de saisir ce qu'il me montrait. Le peuple d'Israël n'a pas commandé avec Moïse et par la mission de Moïse. Mission à une Moïse, à une mission. Ça, c'est net, net. Il a une mission. Sa vocation est liée à une mission. La vocation d'Abraham, elle est liée à la terre de Canaan. Elle est liée à la fécondité. Elle est liée à la bénédiction que Dieu lui donne. Une mission. Une mission comme législateur, une mission comme juge, une mission qui consiste à donner au peuple d'Israël le sens de son pèlerinage terrestre. Il enseigne Moïse. Il enseigne comme législateur, il enseigne au point de vue liturgique, si vous voulez, parce qu'au fond, son enseignement est très liturgique. Il est lié à la Pâque. Et il est lié à la loi. Mais la Pâque est donnée avant la loi, hein, pour bien montrer que l'enseignement moral de la loi ne peut pas se comprendre en dehors de la Pâque. Et la Pâque, c'est vraiment l'alliance fondamentale que Dieu va réaliser avec le peuple d'Israël pour bien faire comprendre le rôle propre de Moïse, envoyé auprès du Pharaon, et sa mission ne sera efficace que grâce à la Pâque. Sans la Pâque, sa mission n'est pas efficace. Mais quelle différence, hein, entre la bénédiction et cet aspect de mission qui implique la Pâque et le don de la loi. Et à l'intérieur de cette mission, vous avez donc deux rôles très importants, je crois que ce sont les deux rôles principaux, le point de vue du sacerdoce. C'est pas étonnant, puisque de fait, fondamentalement, le rôle de Moïse, c'est d'établir la Pâque. Et donc on comprend très bien que le sacrifice va prendre une importance très grande à partir de la Pâque. Et ceci est confié aux Lévites, à une tribu. Et là encore, nous voyons que leur rôle est lié à un lien selon la chair et le sang. Ils ont une fonction sacerdotale. Et puis, il y a le rôle des juges. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout ce temps particulier qui reste au point de vue des juges, qui est un temps très spécial. Les juges, ce n'est pas des prêtres, ce ne sont pas des prophètes. C'est un rôle très important d'établir un ordre, un discernement au niveau de la justice, et une justice divine, une justice religieuse, avant tout. Tout cela demande d'être, à un moment donné, dépassé par le point de vue des prophètes. Les prophètes sont aussi des médiateurs. Et les prophètes ont un rôle très particulier. Puisque d'une certaine manière, ils parlent directement de la part de Dieu, en montrant qu'ils sont bien des envoyés de Dieu. Et donc, quand il s'agit du prophète, le rôle de la mission devient très important. Le rôle de la mission dans l'ancienne alliance est beaucoup plus important du côté prophétique que du côté proprement sacerdotal. On ne peut pas dire que les Lévites, ce sont des envoyés. Au sens très très fort. Ils sont institués, Lévites. Alors, vous voyez, vous trouvez institution. C'est intéressant parce que toutes ces choses-là, on les retrouve après, n'est-ce pas ? Mais c'est important de les voir d'abord dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est séparé. Aujourd'hui, on oppose institution et instinct prophétique. Vous avez un charisme prophétique, vous êtes au-delà de l'institution, n'est-ce pas ? C'est bien évident, puisque vous avez l'instinct prophétique. On oppose. Alors, c'est intéressant de voir que le sacerdoce est lié à l'institution, le prophète, non. Le prophète, c'est un envoyé. C'est la bouche de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, vous allez me dire, Moïse était déjà un peu prophète. Oui, il était envoyé aussi, je vous l'ai dit. Mais pas de la même façon. Les prophètes vont avoir un rôle d'envoyé pour rappeler que, au-delà de la loi, il y a l'amour. Au-delà de l'institution, il y a l'amour. Ça, c'est le grand rôle des prophètes. Les prophètes sont liés à l'alliance de l'époux et de l'épouse. C'est leur grand secret. Et c'est ça qui est le plus important dans tous les prophètes. C'est pas tellement d'annoncer des choses catastrophiques. Ça, c'est plus théâtral. Et c'est ce qu'on retient le plus. Vous êtes un prophète quand vous annoncez les choses. Vous allez voir à la fin de l'année, mois d'octobre, hein, révolution, Paris sera détruit. 84, mois d'octobre, Paris détruit. Et puis... Oui, c'est mais il y a quelque chose de vrai. Il y a toujours dans les prophéties quelque chose de vrai. Mais nous les recevons, nous, d'une façon matérielle, et nous ne comprenons pas que toutes les prophéties, c'est symbolique. Quand le soleil se change, n'est-ce pas, en un crin noirâtre, et que la lune est changée en sang, c'est prophétique, symbolique. Jusqu'où ce symbolisme s'enracine dans le point de vue physique, je n'en sais rien, et vous non plus. C'est avant tout symbolique, et c'est ça le langage des prophètes avant tout. Et c'est avant tout pour faire comprendre qu'il faut vivre de l'invisible. Et puis, il y aura l'alliance avec les rois. Pour faire du peuple d'Israël un peuple qui peut se glorifier. C'est très curieux, vous savez bien, c'est un passage très délicat avec Samuel, mais qui est quand même très intéressant. C'est un des passages qui me semble les plus étonnants au point de vue de l'économie divine. Ce passage où le peuple d'Israël réclame un roi. Il louche. Il regarde les autres peuples, et les autres peuples ont un roi, et grâce à ce roi, ils sont victorieux dans les victoires, et grâce à ce roi, ils connaissent la gloire. La royauté est liée à la gloire. La gloire terrestre, pas la gloire de Dieu, la gloire terrestre. Parce que c'est lié, si vous voulez, à la plénitude d'un gouvernement temporel. Et le point de vue de la royauté va mettre l'accent, si vous voulez, déjà tout de suite, dès les premiers rois, Saül, David, Salomon, sur un messianisme temporel. Je crois qu'il faut regarder la royauté comme une concession divine, Dieu ne boude pas, qui va alors orienter vers le point de vue temporel. Et orienter vers le point de vue temporel avec un très grand poids. Le messianisme temporel devient quelque chose, j'allais presque dire, de primordial. La réussite, quoi, la victoire, la gloire, c'est quand même très important. Et alors, à côté de tous ces médiations, ce sont toutes les médiations, il n'y en a pas d'autres, hein. Nous voyons les luttes, nous voyons les brisures. C'est à partir de la gloire de Salomon qu'il y a la division du royaume du Nord et du royaume du Sud. À partir de la gloire de Salomon, ça n'a pas duré très longtemps l'unité, hein. Et ça, c'est quand même très important pour nous, de saisir comment il y a eu ces brisures, à l'intérieur même d'un gouvernement qui est un gouvernement divin. Et cette brisure provient de la gloire, parce qu'on n'a pas été assez fidèle à mettre un primat sur ce que Dieu demandait. L'alliance d'époux et d'épouse, une alliance d'amour. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose qui est important à saisir. Le point de vue de la paternité lié à la famille. Le point de vue du peuple et le gouvernement du peuple. Notons ces trois. Et à l'intérieur même de cela, le rappel de l'alliance de l'époux et de l'épouse. Qui ramène à la famille, mais qui n'est pas la famille. Enfin, si vous voyez bien, la famille, le point de vue du peuple, le point de vue du peuple qui va jusqu'à la royauté instituée par les prophètes, mais cette royauté qui constamment est orientée vers un point de vue trop temporel, et les prophètes seront là pour rappeler l'importance de dépasser ce point de vue temporel. Et la gloire va apporter les brisures. Et Dieu se servira de ces brisures pour constamment rappeler à Israël sa mission, qui est une mission religieuse, pas temporelle en premier lieu. Et Dieu se servira de tout cela pour faire comprendre à Israël son infidélité, et à partir de son infidélité, la fidélité de Dieu. et la fidélité de Dieu qui est comparable à celle de l'époux à l'égard de l'épouse. Une fidélité toute d'amour, au-delà de tous les résultats. Vous voyez donc que dans cette perspective, l'alliance sacerdotale a sa place, mais n'est pas du tout primordiale. Et c'est pour ça que d'une façon générale, on dira que dans l'Ancien Testament, il y a une mission royale, une mission prophétique, royale et sacerdotale. C'est vrai. Comme mission. On va dire qu'il y a une mission paternelle. Non, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mission paternelle. Mais il y a une alliance dans la bénédiction, dans la fécondité qui est paternelle. Alors on peut dire prophétique, royale et sacerdotale. Tout cela est d'une certaine manière inclus, comprenez bien, dans la mission de Moïse, du législateur. Mais Moïse n'a pas tout réalisé, il a posé certains jalons qui sont précisés ensuite. Quand arrive Jésus, la plénitude des temps, au terme de l'attente, quand arrive Jésus, le mystère de Jésus se réalise d'une manière toute cachée. Non seulement elle se trouve d'une manière tout à cachée, mais on pourrait presque dire que selon l'économie divine, Dieu aime de brouiller toutes les cartes. C'est extraordinaire. Hein? Nazareth, Bethléem, on brouille les cartes. Hein? De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est la vérité de Bethléem. Si Jésus avait dit tout le temps, non, je suis de Bethléem, je suis à Nazareth, mais comprenez bien, je ne suis pas chez moi ici. Je suis de Bethléem, je suis de Bethléem. Jésus n'a pas répété indéfiniment, non? Je crois qu'il l'a dit aucune fois. Ce qui pose un petit problème pour les historiens, très bien. Je me souviens une année où j'avais été, c'était une année où à l'école biblique, on discutait beaucoup ces problèmes, alors... Oui, Bethléem, allez, Bethléem, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors on allait à Bethléem, mais ça n'a rien à voir du tout avec Jésus. Allez à Nazareth, là, oui, mais c'est pas du tout. On peut pas le dire. Alors le pauvre patriarche latin dit, vous voyez, l'école biblique, vous voyez ce qu'ils disent. Alors vous voyez, tous les pèlerinages à Bethléem perdent leur sens. Alors, c'est éloigné de la dévotion qui arrivait là pour dire, non, on peut pas dire ça. Alors, c'est très vrai que Jésus a brouillé toutes les cartes. C'est quand même invraisemblable. Au point de vue historique, il a brouillé toutes les cartes. Joseph et Marie, c'est quand même bien brouiller les cartes. Alors, pourquoi ? Tout ça ne peut se comprendre qu'en fonction de sa mission. Tout ça ne peut se comprendre qu'en raison de ce qu'il est. Alors, vous voyez, vous retrouvez tout de suite, hein, et c'est ça qui me semble important. Comme je disais, il y a les pères, puis après il y a les missions. Vous avez quelque chose d'analogue dans le mystère de Jésus. Ce n'est pas la mission. La mission commande tout, c'est sûr, mais il y a quelque chose de plus radical que la mission. Mystère de l'Annonciation. Mystère du Verbe devenu chair. C'est plus radical. Et c'est ce qui nous est donné en premier lieu dans le prologue de Saint Jean. Et puis, il y a la mission. Il est l'envoyé. Il est envoyé dans tout son être. Mais il existe avant d'être envoyé, vous comprenez bien. Donc il est le Verbe devenu chair avant d'être envoyé. Puisqu'il est le Verbe éternel. Il est. Et il est envoyé. Alors c'est là où on comprend très bien tout un problème extrêmement important parce que je crois que l'équilibre qu'on mettra entre les deux, et c'est pour ça qu'exprès je regardais l'économie dans l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, tout est beaucoup plus beaucoup plus facile à comprendre. C'est très... dans la nouvelle alliance, tout est repris dans un condensé merveilleux, homéopathique, hein, un condensé étonnant, où vous voyez le mystère du Verbe devenu chair dans toute la vie cachée. La vie cachée, c'est quand même pas le point de vue de la mission. Une mission demande d'être manifestée. Autrement, alors la mission, ça va plus. Alors il y a toute la vie cachée. Et il y a toute cette manière de brouiller les cartes pour ce mystère fondamental premier du Verbe devenu chair. Et mystère caché pour que ce mystère devenu chair soit pleinement et totalement vécu. En Marie, dans la grande attente. Tout le mystère de la vie cachée de Jésus à Nazareth. Et tous les épisodes, hein, la vie de Jésus. Et puis Jésus commence sa mission au désert. Et commence sa mission comme envoyé du Père. Il y a bien, à un moment donné, hein, faut pas l'oublier, quand Jésus a 12 ans, qu'il va à Jérusalem et qu'il rappelle à Marie « Pourquoi me cherchez-vous ?» Cette parole si importante, ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père ? Alors là, nous voyons dans la vie cachée un moment de la mission. Fallait-il pas que ce soit tout entier aux affaires du Père ? Et on voit que cette mission dépasse complètement la vie cachée. Et c'est pour bien nous faire comprendre les liens entre la vie cachée et la mission, ça dépasse complètement la vie cachée. C'est d'un autre ordre. Et cette mission va prendre toute sa force à travers toute la vie apostolique de Jésus pour terminer à la croix. C'est à la croix où la mission prend toute sa signification. Et c'est à la croix où la mission va s'achever dans le mystère de la gloire. Il est bon pour vous que je m'en aille. Donc c'est pour l'accomplissement de la mission. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le paraclet. C'est pour l'efficacité de la mission. Et cette mission s'achève dans le don de l'Esprit Saint. Il y a donc deux aspects dans le mystère de Jésus que je suis obligé de regarder si je regarde attentivement l'économie divine. Il y a deux mystères. Le mystère du Verbe devenu chair, et nous devons le regarder pour lui-même. Et le mystère de la mission du Christ. Les deux. Et il faudra comprendre le lien entre les deux. Et on sait très bien que c'est le lien entre ces deux qui vont donner des caractères tout à fait différents à la théologie, à la christologie. Je vais le souligner tout à l'heure, vous allez le voir, avec notre cher Pannenberg, parce qu'il nous sert de temps en temps à ce point de vue-là de mettre en pleine lumière certains aspects qui sont intéressants et que nous ne pouvons pas dire autrement, tandis que là, il nous les dit, il le dit ouvertement. Alors, c'est intéressant de voir ça. Mais je vous le souligne, je crois que si je suis attentif à ce qui m'est donné au point de vue théologie de l'économie divine, je dois le dire. Je ne peux pas faire l'économie de cela. Je ne peux pas faire l'économie du prologue. Le prologue a joué une telle place dans toute la vision de la théologie du Christ que je dois être attentif à ça. Et je dirais nous encore plus, hein, vous voyez bien, dans la communauté Saint-Jean, avec un regard encore plus attentif, étant donné ce que doit être le prologue pour nous et ce qui nous est montré là. Et puis alors, le mystère de la mission. Alors, la mission du Christ s'achève à la croix. Alors, c'est là où j'essaie de comprendre, en m'aidant du reste de l'Épître aux Hébreux. La mission du Christ s'achève à la croix, ça je ne peux pas nier. Elle prend tout son sens à la croix. Et c'est dans le mystère de la croix que je dois découvrir ce qu'est cet envoyé. La croix, vue de l'intérieur, c'est-à-dire vue dans les intentions du Christ. Et je dis bien vue dans les intentions du Christ, pas vue de l'extérieur. Hein. Père, glorifie ton Fils. L'heure est venue. C'est la grande prière sacerdotale de Jésus. Et cette prière sacerdotale, elle est capitale si on veut entrer dans le mystère de la mission de Jésus. Je crois qu'on ne peut pas saisir la mission de Jésus si on ne regarde pas cette grande prière. Père, elle est venue, l'heure, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. La mission de Jésus, c'est donc de glorifier le Père. C'est ça. Il est venu pour cela, glorifier le Père. C'est-à-dire le manifester, faire comprendre ce qu'est le Père. Et c'est dans la mesure où le Père est glorifié que le Fils est glorifié. C'est vraiment cela. Et je crois que tout l'évangile de Saint Jean, si je suis attentif, montre cela. Il est venu pour glorifier le Père. Et il glorifie le Père en offrant sa vie, en offrant son âme. Il a le pouvoir de la poser, de la déposer, et c'est pour ça que le Père l'aime. Et c'est par là qu'il glorifie le Père. Il glorifie le Père, donc, dans un sacrifice intérieur. Pas le sacrifice extérieur, un sacrifice intérieur. Il vient donner au sacrifice une signification toute nouvelle. Alors là, ce serait intéressant, vous voyez, de reprendre ce livre, on oublie toujours le nom, mais vous le savez bien, qui est apparu il y a quelques années sur le point de vue du sacrifice, n'est-ce pas ? La révélation des choses depuis le commencement, n'est-ce pas ? Et qui montre le sacrifice, qui a des points de vue qui seraient très intéressants à reprendre et qui, en même temps, demanderait d'être rectifié. Parce qu'il a oublié, justement, que Jésus vient donner au sacrifice une signification toute nouvelle. Parce que tout intérieur. Le sacrifice n'est plus vu négativement. Offrir son âme, offrir sa vie, par amour. Et en offrant son sacrifice, il glorifie le Père. Et ce sacrifice, cette offrande qu'il fait de lui-même, ce sacrifice qu'il fait de lui-même, manifeste que l'amour est victorieux de la mort. Et il a fallu que cette mort se manifeste à travers toute la souffrance, pour que ce soit une mort au sens le plus fort, pour que nous comprenions mieux, dans l'ordre de la manifestation, combien l'amour est victorieux de la mort. Il a fallu que toutes les morts soient présentes. Et en même temps qu'il glorifie le Père, il nous sauve. Voilà la double mission qui ne fait qu'un. Pourquoi ? Parce que l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain ne fait qu'un. Et c'est bien cela que Jésus vient nous révéler. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est le même amour. Et Jésus le réalise au terme de sa vie, il le vit au terme de sa vie, il glorifie le Père, il nous sauve. Les deux versants du mystère de la croix qui ne font qu'un, inséparablement unis. Alors, il nous sauve à travers l'offrande de sa vie. En glorifiant le Père, il nous sauve. Il nous sauve en portant toute l'iniquité du monde, comme agneau de Dieu. Donc, en satisfaisant pleinement et totalement à l'égard du péché, mais ce n'est pas premier. Vous voyez tout de suite l'importance de ce regard. Et il se donne à nous. L'institution de l'Eucharistie sera là pour nous faire comprendre comment le mystère de la croix, le mystère de la rédemption, est premièrement un mystère d'amour qui implique un don. Il glorifie le Père et il se donne à nous. Il se donne à nous de la manière la plus forte qu'il soit, puisqu'il devient notre pain, puisqu'il devient notre aliment. Le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande de sa vie, pour glorifier le Père, implique en même temps un don pour chacun d'entre nous. C'est en ce sens-là que c'est la nouvelle Pâque. C'est la nouvelle Pâque où l'agneau, c'est Jésus. C'est la nouvelle Pâque qui nous libère de l'esclavage radical du péché. Tout autre esclavage est dépendant de celui-là. Et là encore, c'est dans Saint Jean que ça nous est montré, chapitre 8. L'esclavage du péché. Nous sommes libérés par Jésus. Donc, satisfaction, libération, qui se fait à travers le mystère de la croix, mais pour le don de lui-même. Et ce don de lui-même va s'accomplir en plénitude par le don de son esprit. Alors j'aurais pu dire, le don de lui-même va s'achever en plénitude par le don qu'il nous fait de sa mère et de son esprit. Le don du trésor qu'il porte en lui et de son esprit. Alors maintenant la question qui se pose, si je vois l'accomplissement de cette mission de cette manière, le sacrifice de la croix, la glorification du Père, la manifestation qu'il nous fait de l'amour qui le lie au Père, est-elle une œuvre sacerdotale, une œuvre prophétique, une œuvre royale? Il faut se poser la question. En regardant ce qui nous est montré à travers l'Écriture. Pas si commode que ça de répondre. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que ce qui est premier, c'est la manifestation? Alors à ce moment-là, ce serait l'œuvre prophétique. Est-ce qui est premier, c'est Jésus qui se donne? Œuvre royale, ayant l'autorité, exerçant son autorité sur son corps de cette manière, et donc sur l'univers de cette manière, où il exerce sa toute-puissance, où est-ce qui est premier, c'est l'offrande de son âme. Alors vous allez me dire, on ne peut pas séparer. Je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas séparer. Les trois sont intimement liés. Mais quand il y a plusieurs éléments, il y a un ordre. Et c'est là où la question se pose au point de vue théologique. Comment ordonner l'offrande de son âme, la manifestation de ce lien avec le Père et sa toute-puissance au service de son don? Et sa toute-puissance, c'est quelque chose de royal. C'est évident que la toute-puissance de Dieu, c'est l'aspect royal au service de ce don. Oui. Là, il faut y réfléchir tout le temps, hein. Il faut revenir tout le temps là-dessus. Je crois, je dis je crois, puisqu'au fond, c'est des questions qui sont très délicates. Si nous sommes attentifs à l'Épître aux Hébreux, si nous sommes attentifs à la manière dont Saint Jean nous présente le mystère de la rédemption, je crois qu'on peut dire que c'est l'offrande de sa vie, de son âme, qui commande tout le reste. Et si c'est l'offrande de son âme, c'est donc une œuvre sacerdotale, l'offrande de son âme en sacrifice, en holocauste d'amour. C'est donc l'œuvre sacerdotale qui va commander toutes les autres. C'est grâce à cette offrande de sa vie qu'il manifeste l'amour absolu qu'il a pour le Père, que l'amour qu'il a pour le Père est quelque chose de premier, que l'amour qu'il a pour le Père comme fils bien-aimé dépasse tout, et que, en conséquence de cette offrande de son âme, il peut nous donner son corps en nourriture. Il peut se donner à nous, parce qu'il s'est offert totalement au Père, parce qu'il a offert toute sa vie. On est donc, vous voyez, là en présence, je crois, de trois aspects qui me semblent très importants à bien regarder, et sûrement que, au point de vue théologique, il y a là quelque chose de capital. Parce que c'est une orientation différente, tout de suite, une mise en lumière différente, si vous voulez, de ces trois aspects qui sont un dans l'exercice, dans la vie. Mais il y a quelque chose qui est premier, je crois que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Fils bien-aimé, puisque c'est comme ça que Saint Jean l'appelle, c'est l'œuvre, est une œuvre sacerdotale, d'un sacerdoce d'amour, du sacerdoce du Fils bien-aimé, mais c'est vraiment une œuvre sacerdotale, le sacrifice, qui caractérise toute œuvre sacerdotale, mais un sacrifice entièrement intérieur, un sacrifice tout à fait divin. Je crois que c'est cela la première dimension que nous devons avoir vis-à-vis du mystère du Christ, qui, voyez, présuppose, j'allais dire, un très grand travail, parce que c'est toute l'Écriture. Et en définitive, je crois que c'est bien ça, la théologie de l'économie divine. Et ensuite, comprendre comment ce mystère du Christ crucifié est source de toute l'Église. Et que tout le mystère de l'Église est dans la lumière même de la mission de Jésus. Et je dis bien de la mission de Jésus. Elle se fonde dans le mystère du Verbe incarné, mais l'Église, c'est la mission du Christ qui se continue. C'est au niveau de la mission qu'il y a continuité. Ce n'est pas au niveau du Verbe devenu chair. C'est le fondement. Il n'y a qu'un seul fondement, c'est le Verbe devenu chair. Vous voyez, là encore, on voit bien l'importance de bien regarder le mystère du Verbe devenu chair pour lui-même et le mystère de la mission. Autrement, on risquera toujours de confondre l'Église et le Christ, et à ce moment-là, on déifiera l'Église. Vous voyez ? Et on ne comprendra pas que l'Église est toute relative au mystère du Christ. Et qu'elle ne peut pas faire quelque chose, vous voyez ? Elle peut développer, mais elle ne peut pas faire quelque chose de plus. Elle est en attente. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Oui, comprenons bien. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est plus grand que le Christ. Non, on développera sa mission. Et alors, vous comprenez que l'ordre qui existe, que nous devons découvrir à travers le mystère de la croix, sagesse. Et c'est pour ça que c'est sagesse. C'est parce qu'il y a un ordre entre le mystère du sacerdoce, le mystère prophétique et le mystère royal. Et je crois que c'est cet ordre-là qu'on doit prendre. Mystère sacerdotal, mystère prophétique, mystère royal. Le mystère royal est fondamental, hein. Et il y a les trois aspects qui sont présents. Et c'est du reste assez net, c'est que lorsqu'il s'agit du mystère royal, Jésus a affirmé, mon royaume n'est pas de ce monde, mais on ne peut pas dire que Jésus nous a donné, il nous a montré cet aspect royal dans la pauvreté. La réponse à l'entrée triomphale à Jérusalem, assis sur le petit d'une ânesse, et réalisant par là l'aspect royal dans la pauvreté et la petitesse. L'Église devra vivre donc de cette même mission sacerdotale, prophétique et royale. je prolonge jusqu'au bout, pour nous, il faudra, dans cette perspective, comprendre la théologie de la famille. Puisque la famille est une église domestique, et donc la famille est liée, elle aussi, à cette même mission. Et c'est sans doute dans cette lumière-là que nous devrions comprendre toute communauté chrétienne. Puisque toute communauté chrétienne ne peut, si elle est ordonnée selon la sagesse de Dieu, elle ne peut être ordonnée que à la manière dont le Christ a voulu qu'elle soit ordonnée. Autrement, nous faisons des fantaisies qui sont nos fantaisies et qui ne sont pas selon la sagesse de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est si important. Et c'est pour ça que c'est très vrai que le mystère de l'économie divine par rapport à Jésus qui nous donne le nœud de cette économie divine, c'est pour nous capital. Toute communauté chrétienne est donc une communauté sacerdotale. Et quand j'ai dit sacerdotale, vous comprenez bien, c'est le sacerdoce de Jésus. Ce n'est pas le sacerdoce ministériel, hein. C'est le sacerdoce de Jésus. Et donc ça implique le sacerdoce ministériel et le sacerdoce mystique. Toute communauté chrétienne est prophétique et toute communauté chrétienne implique un aspect royal. Mais en troisième lieu, pas premier, oui, ce qui fait comprendre qu'il peut y avoir dans certaines perspectives politiques, n'est-ce pas, qui veulent des communautés chrétiennes qui sont avant tout royales, n'est-ce pas, ou monarchiques, des déviations de ce que représente la communauté chrétienne comme telle. Non, elle est sacerdotale, prophétique, royale. Je m'arrête là et nous continuerons sans doute, je dis ça sans doute, je ne sais pas si c'est déjà établi, dimanche. Je m'excuse, pas demain, dimanche. Parce que la semaine prochaine, je ne pourrai pas venir vendredi, j'irai à Curières. Hein. Alors, vous voyez, donc je dis ouvertement où je vais. Et de Curières, je devrais aller à Reims. Et donc, je serai pris vendredi. Alors, comme je ne veux pas prendre sur Saint-Jodard, j'aime mieux rattraper, c'est plus facile les cours, rattraper, c'est pas plus mal, comme ça on entrera un peu plus à fond pour vous mettre au pied d'œuvre. Alors si vous voulez, dimanche, on continuera de voir un peu les diverses perspectives de cette théologie vue du côté de l'économie divine, comment nous pouvons regarder le mystère Christ, le mystère du Christ, selon ces diverses perspectives, parce que je crois qu'il y a diverses perspectives que nous devons respecter.